franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, les nouvelles infections au VIH qui diminuent fortement dans les milieux gays grâce au traitement préventif.
De nouveaux médicaments sont disponibles pour être testés, et dans ce putain d'hôpital. J'en ai besoin.
Ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur Woodruff. Où allez-vous comme ça?
Ils ont de bons médocs au Mexique. C'est mieux que ce qu'on a ici aux States. Et on peut pas les acheter aux États-Unis?
Non approuvé. Vous importez des médicaments illégaux pour les vendre?
Pas illégaux, non approuvé, c'est tout.
Extrait du film Dallas Buyers Club pour parler aujourd'hui donc de cette baisse impressionnante des nouveaux cas de VIH dans la communauté gay londonienne. Moins 40% en un an, une diminution attribuée majoritairement au traitement préventif à base de Truvada. L'occasion pour nous de faire le point sur ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie de pré-exposition. Et on en parle avec vous, Jean-Michel Molina. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ligne. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et vous êtes également un des premiers à avoir introduit la PrEP en France. Alors rappelez-nous pour commencer, en quoi consiste cette nouvelle méthode de prévention remboursée hein, dans notre pays?
Eh bien la PrEP, il s'agit de pouvoir donner des médicaments actifs contre le virus du sida qu'on utilise pour le traitement des personnes infectées, mais cette fois-ci en prévention, c'est-à-dire pour les personnes qui ne sont pas infectées par le virus du sida, mais qui de par leur comportement présente un risque élevé de contamination et donc on a démontré d'ailleurs avec une étude française financée par l'Agence nationale de recherche sur le sida qu'on pouvait avec ce traitement préventif donné avant les rapports sexuels réduire de façon très importante le risque de contamination par le virus du sida. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs la France a été le premier pays en Europe à approuver ce nouveau mode de prévention.
Alors, ce qui est intéressant avec le cas londonien, c'est que le médicament, le Truvada, n'est pas remboursé, en Angleterre en tout cas, et que cette baisse de 40% est attribuée majoritairement à des commandes de médicaments sur Internet. Qu'est-ce que vous pensez de cette information?
D'abord, je crois que c'est évidemment une très bonne nouvelle, qui confirme, j'allais dire, les informations que nous avons dans d'autres pays où ce programme de prévention est mis en place. Bien entendu, il faut quand même être prudent sur ces premiers résultats qui nous viennent de 4 cliniques londoniennes. Donc je crois qu'il faut à la fois être optimiste, mais mesuré et prudent. Il ne faudrait surtout pas relâcher les efforts de prévention en général vis-à-vis du VIH. La PrEP est un nouveau moyen qui vient s'ajouter aux moyens existants. Et bien entendu, le préservatif reste un moyen extrêmement important de prévention contre le VIH. En Grande-Bretagne, à la différence de la France d'ailleurs, il faut souligner là l'engagement des autorités de santé françaises qui ont permis de rendre ce traitement accessible à tous et remboursé donc depuis le 1er janvier de l'année 2016, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an. En Grande-Bretagne, il y a eu des discussions. À la différence de la France, vous avez le droit en Grande-Bretagne de commander sur Internet des médicaments qui ne sont pas encore autorisés en prévention et c'est ce qui explique qu'en Grande-Bretagne, les patients, pour l'instant, ont commandé leurs médicaments sur Internet, mais le NHS, qui est l'organisateur du système de santé en Grande-Bretagne, a mis en place, pour l'année 2017 et pour les 3 ans qui viennent, d'ailleurs un grand programme de 10 millions de livres sterling pour justement permettre à plus de 10 000 personnes en Grande-Bretagne de recevoir ce traitement gratuitement. Donc les choses sont en train de passer du commande sur Internet à la mise à disposition, comme c'est le cas en France, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres pays européens, petit à petit.
Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même voir ce résultat comme une réussite de l'automédication?
Ce n'est pas de l'automédication. Les gens sont suivis régulièrement en consultation par des médecins spécialisés, comme nous le faisons d'ailleurs en France. Il y a plus de 200 cliniques en France qui aujourd'hui délivrent comme cela ce traitement préventif aux personnes à haut risque. Et donc en Grande-Bretagne, c'est simplement du fait que ce médicament n'était pas remboursé. Un certain nombre de personnes qui ne pouvaient pas payer le médicament, eh bien, les médecins londoniens, mes collègues londoniens, les dirigeaient sur des sites internet a priori sécurisés, mais il faut bien entendu être toujours extrêmement prudent de ce que l'on commande sur internet, car quelquefois les médicaments ne sont pas des vrais médicaments. Donc en aucun cas il s'agissait d'automédication, ce serait d'ailleurs dangereux car ces médicaments ont des effets indésirables qu'il faut monitorer. C'était plutôt accompagner ces personnes pour leur permettre d'avoir accès, comme en France, à ce traitement dont on sait qu'il est extrêmement efficace en prévention.
Alors justement, Jean-Michel Molina, on a des chiffres pour la France parce que cette baisse est extrêmement impressionnante, hein, moins 40% en un an, donc vous l'avez dit, avec toutes les précautions d'usage pour ces 4 hôpitaux londoniens. Est-ce que puisque le remboursement est possible en France, on enregistre également une baisse très importante ou pas?
Tout ce qu'on peut dire, c'est que les dernières données dont on dispose, qui sont celles de l'année 2015, hein, dont nous avons eu les résultats récemment, ne montraient pas de diminution du nombre de contaminations globalement en France, qu'on espère aussi pouvoir mesurer, pas seulement à l'échelon de 4 cliniques, mais à l'échelon de l'ensemble du territoire français, dans les 2 ans qui viennent, 2-3 ans, une diminution nette de ce nombre de contaminations. Et c'est d'ailleurs le programme que l'ANRS va mettre en place, en particulier sur l'Île-de-France, qui est la région la plus touchée en France, pour accompagner effectivement cette prévention. Je voudrais aussi rappeler que, bien entendu, ce résultat n'est pas le résultat d'une seule intervention que représente la PrEP, quelle que soit son efficacité. C'est le résultat d'une combinaison d'interventions, renforcer l'usage du préservatif, l'utilisation de la PrEP, le traitement immédiat des personnes infectées. Donc toutes ces actions avec une augmentation, une amélioration du dépistage des personnes à risque va permettre, on l'espère, dans les années qui viennent, de voir enfin une diminution de l'épidémie dans les pays européens, en France en particulier.
Est-ce qu'il n'y a pas des risques de changement dans les pratiques? Je pense à une baisse de l'usage du préservatif, surtout si la molécule est trouvable facilement sur Internet.
D'abord, encore une fois, sur Internet, il faut se méfier de ce que l'on achète, qui ne sont pas toujours de vrais médicaments. Donc il y a évidemment un commerce illicite sur Internet, donc il faut être prudent. Et en France, ça serait quand même un comble, alors que le médicament est disponible gratuitement, d'aller le commander sur Internet, car il est malgré tout payant sur Internet, moins coûteux que, bien entendu,
dans les pharmacies. Il y a un processus d'éligibilité en France, quand même.
Pardon ?
Il y a un processus d'éligibilité pour avoir une prescription en France. Tout le monde ne peut pas aller voir son généraliste.
Il faut aller voir un médecin, et d'ailleurs c'est souhaitable, pour discuter justement avec le médecin des meilleurs moyens de prévenir l'infection, et puis aussi pour se faire dépister, car quand on est suivi en consultation de PrEP, on bénéficie d'un suivi médical tous les 3 mois, qui permet également d'être testé pour le VIH tous les 3 mois. Et on se rend compte d'ailleurs que de cette façon, on a attiré vers le dépistage des personnes à très haut risque qui étaient infectées, qui ne le savaient pas, et qui, pour bénéficier de ce moyen de prévention, se sont faites donc à nouveau dépister, ou dépister pour la première fois, se sont rendues compte qu'elles étaient infectées, et qu'on a pu à ce moment-là les prendre en charge et les traiter correctement. Donc il est clair que l'automédication n'est pas le terme approprié, il s'agit véritablement d'un accompagnement des personnes à risque, qui permet de les accompagner d'ailleurs en termes de prévention du VIH, mais aussi des autres infections sexuellement transmissibles qui sont fréquentes chez des gens qui ont des conduites à risque. Également sur la consommation de drogue, par exemple, qui est quand même assez fréquente, des problèmes psychologiques que les gens peuvent présenter. Donc il y a véritablement une prise en charge globale de la santé sexuelle de ces personnes.
Est-ce que justement, Jean-Michel Molina, est-ce que réellement le Truvada en France est accessible à tous? Parce que justement, pour reprendre ce que vous disiez Axel Villard il y a un instant, il y a des conditions particulières en France pour bénéficier quand même de ce médicament, ce qui pourrait d'ailleurs expliquer que la baisse des contaminations soit moins importante qu'en Angleterre, non?
Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'elle soit moins importante, car pour l'instant, on est peut-être un peu plus prudent en France et on attend d'avoir des résultats consolidés plutôt que de faire des annonces peut-être un petit peu prématurées qui risqueraient aussi de démobiliser autour de cet enjeu qui est majeur, qui est celui d'enfin arriver à vaincre cette épidémie en France. Donc je crois qu'il faut là mobiliser toutes les énergies autour de la prévention qui comprend à la fois le dépistage, le traitement précoce des infections et la PrEP avec bien entendu l'utilisation renforcée du préservatif. Évidemment, ce traitement est disponible à la suite d'une consultation médicale, ce qui est vrai de tout traitement. Les critères d'éligibilité sont assez larges. Encore une fois, ce n'est pas un traitement pour tout le monde, la PrEP. C'est un traitement pour les personnes qui sont à haut risque de contamination, avec une définition qui est assez souple et qui permet, lors d'un échange avec le médecin, de se rendre compte si oui ou non, finalement, c'est un traitement qui, pour une personne, est bénéfique, utile. Et dans ces conditions-là, le traitement est évidemment prescrit si le médecin juge que c'est une indication satisfaisante.
Allez, dernière question, très vite.
Oui, très court. Comment vous expliquez le facteur 10 qu'il y a entre le prix du Truvada en pharmacie et des génériques qu'on trouve en ligne?
Ces génériques sont fabriqués par des pays, en particulier indiens, qui fournissent justement ces médicaments dans les pays du tiers-monde, qui n'ont pas les moyens de payer le coût des traitements et de l'innovation thérapeutique dans les pays du Nord. C'est pour ça que ces traitements sur Internet sont à des prix qui les rendent accessibles pour le traitement des personnes infectées par le VIH dans les pays du tiers-monde pour favoriser, là encore, l'accès au traitement dans le monde entier. Alors évidemment, ces traitements en France restent plus élevés parce que leur coût est lié aux accords commerciaux entre les différents fabricants dans les pays du Nord. Les règles sont différentes dans les pays du Sud, là encore, pour faciliter l'accès au traitement dans les pays du Sud.
Merci Jean-Michel Molina, vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Merci à vous et
Axel,
à vous. À demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les premiers rétrovirus apparus il y a 500 millions d'années, c'est ce qu'affirment les travaux d'une équipe de paléovirologues dans Nature Communication, reculant la précédente estimation de près de 400 millions d'années. Pour cela, les scientifiques ont développé un nouvel outil mathématique qui permet de calculer le taux de mutation chez les espèces sur de très longues périodes de temps. Les résultats sont sans appel. Les premiers rétrovirus datent de l'époque l'époque où les premiers animaux sortis de l'eau ont commencé à peupler les sols. La gravité influence l'expression de nos gènes. On le savait déjà lorsque les spationautes reviennent de leur séjour dans l'espace. Ils mettent du temps pour se réadapter à la gravité terrestre, leur densité osseuse ayant fortement baissé. Pour comprendre les phénomènes sous-jacents, une équipe internationale dirigée par le japonais Akira Kudo a étudié les cellules osseuses de poissons en orbite dans la station spatiale internationale. Grâce à leurs observations, on sait maintenant que c'est l'expression des gènes liés à notre squelette qui est influencée par la gravité. Cette découverte n'est qu'un début. Les chercheurs ont déjà planifié d'autres expériences pour comprendre l'impact de la faible gravité sur nos structures osseuses. Et puis un rongeur aveugle qui se déplace comme une chauve-souris, le loir pygmée de Chine. C'est un petit rongeur quasi aveugle et qui pourtant se déplace sans problème. En l'étudiant de plus près, des scientifiques du zoo de Moscou ont remarqué que l'animal émet des ultrasons qui, en rebondissant sur les branches et feuillages aux alentours, permettent au rongeur de visualiser son environnement. Ce mécanisme appelé écholocation est similaire à celui utilisé par la chauve-souris, ce qui pousse les scientifiques à croire que ces dernières ont développé leur radar biologique bien avant de voler.